deviennent les personnes et les familles sans papiers après leur expulsion du territoire français? Malgré les difficultés, de plus en plus de militants du réseau Éducation sans frontières et de personnes faisant partie des comités de soutien aux personnes et familles sans papiers maintiennent les liens forts qui se construisent dans les luttes contre la politique d'expulsion chiffrée menée par le gouvernement Sarkozy et essaient de prolonger la solidarité au-delà des expulsions. C'est le cas, parmi d'autres, d'Elisabeth, militante du réseau Éducation sans frontières à Marseille, qui s'est battue et continue de se battre pour la famille de Miri, trois enfants, une famille kosovare expulsée de France par avion militaire vers le Kosovo en septembre 2007. Accompagnée de Max, Elisabeth est allée les voir en avril dernier à 30 km de Pristina avec un chargement de 150 kg de matériel de première nécessité réuni par le comité de soutien à la famille de Miri. Elisabeth nous a raconté son engagement pour cette famille et son périple pour aller les voir.
Donc c'est la famille de Miri qui a été incarcérée au camp de rétention du Canet pendant 17 jours au mois de septembre à Marseille avec ses trois enfants. Iridona qui avait à l'époque 14 ans, Léutrim qui a eu 13 ans dans le camp et Daphina 12 ans.
Ils étaient en France depuis combien de temps ?
Ils étaient en France depuis 2002. Et donc, réfugiés politiques suite aux événements qui se sont passés au Kosovo, que tout le monde connaît, quoi. Donc la guerre, leur maison a été brûlée, le grand-père assassiné sous les yeux de la famille, et la maman a subi des violences sexuelles, elle a été violée en fait en réunion, et donc le papa a décidé à ce moment-là de prendre la fuite et de rejoindre la France. Ils sont arrivés à Marseille via la Grèce et ensuite ils ont été à Chambon-sur-Lignon où ils ont été dans un CADA pendant tout le temps où ils sont restés en France en fait.
CADA, c'est quoi ?
C'est comme une sorte d'hôtel où on met les gens qui sont en attente d'avoir le statut de réfugié. Donc ils ont à disposition des chambres, ce qu'il faut pour faire la cuisine, des personnels psychologiques et éducatifs qui sont là pour les aider dans leur démarche et dans leur vie quotidienne.
Et pourquoi n'ont-ils pas obtenu ce statut-là ?
Alors, ils n'ont pas obtenu ce statut-là parce que la France a une politique qui est désormais très sévère en matière de réfugiés politiques et la maman ne pouvait pas apporter la preuve qu'elle avait été violée et qu'ils avaient subi des tortures, puisque évidemment les bourreaux sont au Kosovo, donc difficile d'apporter la preuve quand vous arrivez réfugié dans un pays de ce qui vous est arrivé dans votre pays, quoi. Voilà. Et donc, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts d'intégration. Ils parlent très très bien le français et ils continuent toujours à apprendre le français avec des livres là-bas chez eux au Kosovo. Leur désir, c'est de revenir.
Donc ils étaient à Chambon-sur-Lignon, ils refusent, ils reçoivent ce refus d'asile politique de la part de la France. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Eh bien donc ils y font appel et durant leur appel, un matin de septembre, la veille de la rentrée scolaire, la police a débarqué au CADA à 6h du matin et a embarqué toute la famille en direction du CRA.
Alors ils étaient à Chambon-sur-Lignon et ils embarquent en direction de quel centre de rétention?
Alors déjà ils ont passé 48 heures en garde à vue à Mende. Et ensuite, ils ont été transportés au camp de rétention de Marseille, au Canet.
Et c'est à ce moment-là, toi, que tu fais partie du réseau Éducation sans frontières, tu es rentré en contact avec eux, c'est ça ?
Alors nous, on a su à peu près, ça faisait une semaine qu'ils étaient incarcérés quand on l'a su. Donc on a commencé à faire des actions, à leur rendre visite, à voir ce qu'on pouvait faire. On a commencé à essayer de mobiliser des gens, sachant que c'était la rentrée scolaire, c'est difficile parce que quand c'est la rentrée, tout le monde est plus ou moins pris. Et en plus, on avait passé un mois d'août terrible avec l'histoire de Sherazade. Donc après, on on est allé voir plusieurs fois par jour la famille par roulement. Donc on s'est organisé entre Carole, Fabienne, Barbara, André et moi, qui font partie du réseau Éducation sans frontières, pour aller la voir le matin, enfin aller voir la famille le matin et l'après-midi, toujours, systématiquement, tous les jours, et leur amener un peu de réconfort. Donc ils ont perdu beaucoup de kilos. L'Iridona, par exemple, a perdu 3 ou 4 kilos pendant son incarcération, la maman aussi. Donc, la nourriture n'est pas halal, donc pour manger, ben, évidemment, ils ne mangent pas puisque ce sont des musulmans. Hein. Il fait très froid puisque la clim est à fond, il n'y a pas de couverture, les conditions d'incarcération sont difficiles, rien n'est prévu donc, pour les enfants. Quel que soit leur âge, donc la maman, les parents ne voulaient absolument pas revenir au Kosovo par peur, hein, et, une peur panique de ce qui pourrait leur arriver là-bas. Et donc, bon, ben, on a tout fait jusqu'au dernier moment, on a saisi le préfet, on a demandé des audiences, on a essayé de voir avec des avocats, mais bon, malheureusement, tout a été trop vite pour qu'on puisse agir, quoi. Par exemple, à l'audience du tribunal administratif, le juge a refusé de voir les enfants pour qu'ils s'expliquent. Alors pour lui, il a même dit que de toute façon, après ce qu'avaient subi les enfants, être incarcéré au CRA, c'était pas grave. Il faut savoir que donc la maman a fêté son anniversaire au camp. Et le petit a fêté ses 13 ans, donc les UTRIM au camp aussi. Et donc pour le moment, on n'a rien pu faire, hein, puisqu'on l'a su trop tard. Par contre, pour le petit, on a fait tout pour avoir une autorisation exceptionnelle de rentrer. Même si ça nous choquait, nous, on aurait préféré que lui sorte. Donc on l'a fait à l'intérieur du camp. Pendant qu'ils étaient au camp aussi, donc le dernier jour, qu'on ne savait pas être le dernier jour, il a eu un parrainage républicain par le maire du 15-16 qui était à l'époque Frédéric Dutoit. Et donc il est venu beaucoup d'élus. On a fait une manifestation et le lendemain à 4h du matin, bah, ils étaient expulsés. L'Iridona a résisté pendant plus d'une heure en essayant de discuter avec la police, en disant qu'elle n'embarquerait pas de toute façon, qu'il voulait rester en France. Bon, le père n'a pu opposer aucune résistance puisqu'il a été enchaîné dès le départ. Les UTRIM et Dafina étaient terrorisés, donc eux, ils étaient prostrés dans la voiture de police, sa maman aussi. Seul l'Iridona a essayé de résister pendant une heure. Et finalement, ils ont fini par l'attraper, la baïonner, l'enchaîner, comme un vulgaire bagnard, on va dire, hein, puisqu'elle a été entravée des pieds à la tête et baïonnée et embarquée dans l'avion. Ils l'ont désenchaîné, débaillonné une fois arrivé en Italie. Donc là, ils ont été embarqués par avion militaire. Donc nous, on n'avait aucune prise là-dessus. Hein. Et donc, le coup pour la France, une expulsion comme celle des deux Miri, on a pu estimer celle des Rabat. Hein. Donc nous, on pense un minimum de 20 000 euros pour un maximum de 80 000 euros, ce qui est énorme. Une famille, 10 policiers pour 3 enfants et des parents complètement abattus.
Et donc toi, après cette expulsion, tu es quand même resté en contact avec cette famille?
Voilà, donc je suis tout le temps restée en contact avec cette famille, avec plusieurs personnes du réseau. Bah parce que hein, c'était la première famille incarcérée sur le camp de rétention à Marseille. Donc, et puis bon, à la voir tous les jours, deux fois par jour, on a quand même un attachement, on connaît leur histoire, ça nous a énormément choqués, marqués. Et donc on a décidé de les suivre pour voir ce qui devenait au Kosovo. On a monté un comité de soutien, donc où il y a plusieurs copines. Donc il y a Carole, Marie-Claude, Max, Armel, Luc, enfin une dizaine. Et donc on essaye de suivre la famille. C'est pas très très facile.
Parce que comment s'est passé leur arrivée au Kosovo là-bas?
Alors leur arrivée au Kosovo. Donc nous, donc quand on a été les voir, ils nous ont vraiment raconté l'arrivée. Avant, jamais.
Donc,
au téléphone ou par internet, par internet, Ridona dit toujours que ça va bien. Or, on sait très bien que c'est faux. On le sent à savoir par internet. Donc les échanges téléphoniques à internet qu'on a, c'est sur les besoins de la famille, quoi. Parce qu'en fait, ils survivent grâce au réseau Éducation sans frontières. En fait, pas à RESF entité lui-même, mais aux copines de soutien et à des gens de toute la France qui envoient des dons pour payer le loyer, pour qu'ils puissent se payer à manger, pour qu'ils puissent qu'ils aient pu se payer le minimum vital pour leur maison. Puisque le papa ne peut absolument pas travailler, il craint pour sa vie, donc il ne sort presque pas. Et de toute façon, les salaires proposés au Kosovo, c'est 5 euros la journée pour faire maçon, alors que lui, bon, sa profession initiale, c'est comptable. Et il n'y a plus d'usine là-bas, il n'y a plus rien, donc des comptables, on en chercherait peu. Et en plus, comme il craint pour sa vie, donc il ne sort pas.
Qui est-ce qui le menace ?
Alors, a priori, il est menacé aussi bien du côté du Kosovo que du côté serbe. Du côté du Kosovo, parce qu'il a travaillé dans une usine serbe, pas collaboré, hein, travaillé dans une usine tenue par des Serbes avant la guerre. Et comme nous, on pourrait le faire si, imaginons que demain, je sais pas, il y a une guerre entre les chrétiens et les musulmans, que moi, je travaille dans une usine musulmane et que d'un coup, les chrétiens, je suis pas chrétienne, mais les chrétiens...
Ouais. Voilà. Une sorte de traître pour les Kosovars.
Voilà, une sorte de traître pour les Kosovars. Et pour les Serbes, il a le tort d'être Kosovar et musulman. Donc voilà.
La situation là-bas est tendue au point qu'il y ait des meurtres qui se passent.
Ah, la situation est très très tendue puisque la MINUC patrouille sans arrêt, il y a les forces militaires européennes, donc italiennes, françaises, grecques, les USA aussi, un peu comme à Bagdad, hein, comme en Irak, où il y a des patrouilles. Toutes les demi-heures, on voit clairement, moi j'y étais, les patrouilles passer. Il suffirait de pas grand-chose pour que ça reprenne.
Ils sont retournés de l'endroit où ils étaient partis, ils ont retrouvé leur maison, tout ça. Ils sont où exactement ?
Alors ils sont à Lipiane, c'est le village d'où ils sont originaires. Leur maison, ils ne l'ont pas retrouvée puisqu'elle a été totalement détruite, brûlée par les Serbes. Donc ils habitent un endroit que quelqu'un leur loue, qu'une personne leur loue, quoi, un propriétaire leur loue. Et donc ils sont un peu en retrait du village, cachés. Donc Ridona dit toujours que ça va bien parce que c'est une enfant, parce qu'elle c'est leur culture, qu'elle ne veut pas inquiéter et qu'elle n'arrive pas à exprimer les choses en fait par téléphone ou par internet, quoi. C'est en lui posant des questions, détournées souvent, qu'on arrive à avoir les réponses.
Et vous n'avez pas de contact avec les autres membres de la famille ?
Non, parce que alors en fait, la maman, elle commence à perdre le français qu'elle avait appris. Daphina et Léoutrim, nous parlent de temps à autre, mais ils ont beaucoup de mal. Au téléphone, ils maîtrisent très bien le français, hein, ceci dit encore, hein, mais ils ont beaucoup de mal à s'exprimer au téléphone. Bon, ils sont jeunes, hein, ils ont 12 et 13 ans. Et puis le papa est caché en Macédoine, donc il est très très peu chez lui. Donc en fait, la seule avec qui on a des contacts vraiment, c'est Ridona, parce qu'elle a pris toute la famille en charge. Donc elle a 15 ans maintenant, à 15 ans, elle est en fait charge de famille, quoi, elle s'occupe de tout.
Et les enfants, la mère, là-bas, ils vont à l'école enfin...
Alors, ils vont à l'école le matin, parce que là-bas, il y a un système de roulement, il n'y a qu'une école, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, les collèges, lycées vont à l'école le matin, et les primaires et maternelles, l'après-midi.
Et ça se passe comment pour eux, à l'école, avec les autres enfants? Ils connaissent la situation de la famille
ou... Alors, a priori, ils ne connaissent pas trop la situation de la famille. Donc ça a l'air de se passer pas si mal que ça, mais en fait ils sont quand même très en retrait, ils n'ont pas tant d'amis que ça. Au moins Ridona et Daphina. Léoutrim lui un petit peu plus, parce que bon c'est un garçon, il joue au foot, il essaie de nouer des contacts. Donc peut-être il a l'air d'avoir un peu plus de contact avec... Sinon, donc, la famille de monsieur, il n'y en a plus. Il n'a plus qu'une sœur qui est en Macédoine. Et la famille de madame, donc toute la famille de madame est sur le Kosovo. Mais bon, les relations entre le... Enfin, elles sont bonnes, mais elles ont l'air d'être quand même difficiles entre monsieur et sa belle famille, quoi. Ils sont bien accueillis, mais c'est quand même, on sent un petit peu une tension, quoi.
Donc après plusieurs mois d'échanges internet et de contacts téléphoniques, deux personnes du comité de soutien décident d'aller les voir au Kosovo. Pour quelle raison?
Alors déjà parce que l'idée germait depuis le mois de décembre. Ils avaient besoin de couverture, ils avaient fait un appel au secours parce qu'il faisait très froid. Là-bas, il n'y a pas d'électricité la nuit, il n'y a pas d'eau. Ils sont souvent coupés, donc il n'y a pas de possibilité de chauffage. Il fait très très froid au Kosovo, donc ils avaient besoin de matériel, couverture, habits chauds, etc. puisqu'ils sont partis de France avec pratiquement rien. Donc on a organisé une collecte en lançant des messages sur le réseau et chacun après auprès de ses contacts. Donc on a recueilli 150 kilos de matériel divers qui allait des assiettes aux vêtements. Et donc, une fois qu'on a eu fait le tri tout ça en janvier et février, on a donc décidé d'aller au Kosovo. Donc, deux personnes au départ devaient y aller, mais on a eu des problèmes matériels, disons, de passeport, etc., qui ont retardé le voyage. Et en avril, Max, qui lui est à la retraite, et moi, qui était en vacances, on avait donc tous les documents nécessaires. Donc, on a décidé, à peu près en une semaine, de partir. On est parti en voiture. Avec les 150 kilos de matériel à l'intérieur de la voiture, dissimulé. Donc à l'aller, on a fait un gros détour pour éviter la Serbie et de se faire raqueter le matériel. Donc on a fait à peu près 3800 km à l'aller. Et ça nous a pris 3 jours.
Vous êtes passé par où ?
Donc on est passé par l'Italie, la Roumanie. Avant ça, on avait tellement de pays. Budapest, oui, attends,
la
Hongrie, voilà. La Slovénie. Donc en fait, France, Italie, Slovénie, Hongrie, Roumanie. Ensuite, on a pris le bateau, on est arrivé en Macédoine, Kosovo. J'ai oublié un pays, je ne sais plus lequel. La Bulgarie.
Plus de 3 jours de voyage
avec 10 heures de conduite par jour à peu près. On s'arrêtait que le soir pour dormir. Et voilà. Et donc on est arrivé au Kosovo, on a eu un super accueil. Ils se sont vraiment défoncés pour nous. Toute la famille s'était cotisée pour, a priori, je pense, pour la nourriture, pour qu'on ne manque de rien. Ils voulaient nous gaver. Ils nous ont fait un accueil de roi, quoi. On a été accueillis les bras ouverts. Et on a passé 2 jours là-bas. C'était vraiment formidable. Toute la famille est venue nous voir. On a été voir la famille de madame. Toutes les maisons, ils nous ont montré comment ils reconstruisaient, ils nous ont expliqué la guerre, leurs conditions de vie qui sont très très dures. Puisque un des frères de madame, par exemple, qui est le chef de la police du Kosovo, gagne 700 euros. Il commande 7000 personnes, il gagne 700 euros par mois. Donc, bon, c'est pour ça au début que je dis que les relations entre la famille de madame et le papa, mari. Tout ça, voilà, c'est difficile ce qu'on pourrait dire, mais pourquoi la famille ne les aide pas, quoi. Et donc, bon, bah, ça, dans les pays musulmans, c'est quand même au mari de subvenir aux besoins de sa famille, hein. C'est encore assez... même s'ils sont très, très évolués, ils ne sont pas voilés ni rien du tout, ils sont quand même très traditionnalistes encore, hein, donc... Sur certains points. Et donc... et puis, bon, tout ce qui s'est passé pendant la guerre, le fait que... Monsieur et madame sont les seuls à avoir fui, je pense aussi, à peut-être mis pas un frein, mais bon, j'aurais du mal à expliquer ça parce qu'ils ne nous ont pas tout raconté non plus. Hein. Moi, ce qui m'a choqué aussi au Kosovo, c'est les charniers le long des routes. Énormément de charniers. et les militaires tout le temps. Donc voilà, et on sent vraiment encore beaucoup de tensions, comme je disais, entre la Serbie et le Kosovo, surtout depuis l'indépendance. La preuve en est, c'est qu'au retour, on a voulu passer directement de la frontière kosovare à la frontière serbe pour se raccourcir notre trajet
puisque
de retour.
Là, tout le matériel avait été laissé.
Voilà, tout le matériel avait été laissé et qu'on s'est vu signifier un refus vraiment très véhément de la part des Serbes de passer la frontière, quoi. Donc on n'a pas insisté avec Max, on est reparti et en fait on a... Alors au retour on est passé par la frontière macédonienne et après on a retenté la Serbie en passant de la Macédoine. Là ils ont un peu tiqué mais ils nous ont quand même laissé passer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas traîné.
Et vous êtes resté combien de temps?
Donc on est resté deux jours et demi on va dire. Donc ils nous ont fait visiter leur village, l'endroit où était leur maison. On est sorti très très tôt le matin pour rencontrer personne dans les rues. On a réussi à faire sortir madame, mais bon, elle nous a expliqué qu'elle sortait vraiment très 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 rarement. La seule fois où elle sort, c'est pour aller voir sa famille à elle et ils viennent la chercher. Sinon, c'est les enfants qui font les courses. Et elle, au village, ne sort jamais, quoi. Elle reste restée chez elle.
Même à l'intérieur du village, il y a...
Il y a des Serbes et des Kosovars. C'est-à-dire qu'il y a une rue qui sépare, en fait. Comme si on disait, d'un côté d'une rue ici en France, c'est les Serbes qui habitent. Et de l'autre côté, c'est les musulmans kosovars. Et on se regarde d'une rue à l'autre, mais on ne passe pas la rue. Voilà, c'est toujours très très tendu.
Vous, quand vous êtes allé vous promener dans le village, vous avez passé cette frontière pour aller...
Du tout.
Ah non,
du
vous
tout.
Êtes resté dans le...
On est resté, c'est une frontière virtuelle, mais ouais. On est à un moment, Max a voulu...
Mais même dans le côté kosovar, elle ne peut pas sortir quand même
En fait, comme elle a subi un viol collectif, que c'est mal vu là-bas, donc je pense que dans le village, sa situation est connue, hein, et donc elle ne se sent pas à l'aise de sortir.
Donc vous êtes allé vous promener un peu dans ce village?
Voilà, avec le papa qui était venu exceptionnellement pour nous voir, et donc les trois enfants. Donc le village en lui-même, c'est en pleine reconstruction. Hein. C'est vraiment, ça se voit quoi. Il y a les immeubles, il y a encore des impacts de balles. Ça avait tiré. On a hésité à y aller parce que 15 jours, 3 semaines avant qu'on part, ça avait vraiment tiré. Il y avait eu de grosses échauffourées au moment de l'indépendance. On a hésité jusqu'au dernier moment, puis finalement, nous y sommes allés. Il y a les patrouilles de la MINUC. Et puis il y a aussi ces coupures d'électricité incessantes, quoi. Donc vous ne pouvez plus faire à manger, il n'y a plus d'eau chaude non plus, vous ne pouvez plus vous chauffer, enfin ça dure des heures et des heures et des heures.
Tu t'attendais à voir ce que tu as vu là-bas?
Oui et non. Bon, je pensais que les conditions de vie étaient très difficiles, mais ça a quand même été un gros choc, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Hein. J'ai mis à peu près 15 jours, 3 semaines à m'en remettre. Et même là, Je dis que bon, on est un peu privilégié en France, encore, peut-être plus pour longtemps. Bon, les pays que j'ai traversés, c'est donc tous des pays européens et j'ai bien vu la situation. Par exemple, quand on est passé en Roumanie, les délocalisations des usines françaises, etc., c'était vraiment parlant. Et je me suis dit, des gens qui gagnent 500 euros par mois et qui ont les loyers qui sont à peu près au même niveau que nous maintenant, hein, proportionnellement on va dire, hein, puisque 150 euros de loyer pour un salaire de 500 euros par mois, c'est énorme quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait rêve aussi par exemple, parce que je suis bien consciente que là on est en train de descendre vers ces pays plutôt que nous on les monte et qu'un jour on n'est pas à l'abri de ça quoi.
De quoi ils vivent les Kosovars là-bas dans ce village?
Eh bien de pas grand chose. Donc il y a la diaspora qui vit à l'étranger, qui injecte de l'argent dans les commerces, etc. Certains parlent de mafia qui tiennent les villages. Et il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Donc c'est la débrouille et la reconstruction. Quoi. Donc la diaspora, je pense, tient tous les commerces. Hein, certains ont beaucoup d'argent. Certains se sont... Mais il y a de la corruption aussi, hein, comme dans tout pays qui se reconstruit. Les subventions européennes ou l'aide internationale n'est pas suffisante pour faire vivre toute la population. Et surtout, ils n'ont pas fini de faire leur deuil de la guerre, puisqu'ils sont encore, par exemple, à la recherche de 2000 disparus qu'ils n'ont toujours pas retrouvés. Donc, quand vous passez sur le route, vous voyez parfois des grandes bâches. C'est par exemple un chantier qui s'est mis en route, et puis ils ont commencé à trouver des charbiers, et ils arrêtent. Donc, pour identifier les gens, etc.
Il y a beaucoup de familles qui veulent partir de là-bas.
Toutes les familles qui ont eu à souffrir de la guerre ne veulent surtout pas rester là-bas, quoi. Quand vous êtes réfugié dans les forêts, que vous n'avez rien à manger, que votre maison est détruite, que vous ne voyez pas d'avenir dans un pays, je comprends qu'ils veulent partir, quoi. Quand ils ont subi des tortures, il faut savoir que la France et les pays européens ne sont pas non plus tout blancs, hein, puisqu'ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire ce qui s'est passé, hein. Tout le monde le sait, donc tout le monde sait ce qu'ont fait les Serbes, Radovic, Milosevic, etc., sur les populations musulmanes, les massacres devant les Français, puisque c'est même les Français et les Européens qui ont affrété les cars pour emmener les musulmans dans des camps de la mort, hein, parce qu'il faut appeler ça comme ça. Donc, et là maintenant, nous on est dans une situation où ces gens sont venus se réfugier chez nous et où on leur met un deuxième coup de marteau sur la tête en leur disant on vous a laissé massacrer mais on vous accepte pas chez nous, vous repartez dans votre pays.
Comme tu disais, tout le monde sait à peu près comment ça s'est passé, l'implication notamment de la France dans cette guerre, les rôles qu'elle a tenus, pas tenus. Est-ce que tu as appris des choses supplémentaires là, sur place?
La souffrance, on voit la souffrance réelle des gens, quoi. Parce qu'en fait, quand on voit ça à la télé, quand on entend ça aux informations, c'est irréel. C'est réel, mais c'est on est tellement assommé d'informations qu'à la fin, on ne réalise plus. Or, quand on va dans un pays, qu'on voit que des gens nous expliquent, nous parlent, ça devient du domaine du réel, qu'on voit les charniers, qu'on voit les conditions de vie. C'est des vrais gens, c'est plus des images. On reçoit un choc. On reçoit un énorme... Enfin, moi, pour ma part, j'ai reçu... c'était la première fois. Mon Max était, a beaucoup voyagé, moi moins. Donc, et c'est la première fois, en fait, que j'allais dans un pays qui sortait de guerre comme ça. Bon, toute jeune, j'avais été en Irlande, où ça m'avait aussi... Mais j'étais très, très jeune, j'avais 16 ans, donc c'était... pas pareil. Là, en allant à l'âge que j'ai et voir comment les gens vivaient, ce qui s'était passé, et le palper vraiment avec des photos qu'on voit, des gens qui racontent, c'est un choc. Moi, bon, après, je me suis dit, si un jour il arrivait une telle chose en France, on n'y est pas préparé, de toute façon, personne n'y est préparé. Nous, peut-être. Un petit peu plus que bon, on a conscience de certaines choses, mais pour la jeunesse qui pense qu'à consommer à son bien-être, je pense que ça serait difficile, quoi.
Le départ a dû être difficile.
Le départ a été très très dur, c'est pour ça qu'on ne s'est pas éternisé dans des adieux, parce que tout le monde pleurait. Moi personnellement, j'aurais pu les mettre dans le coffre de ma voiture et les embarquer avec une bâche ni vue ni connue, je l'aurais fait, quoi. Je l'aurais fait. Ça m'a arraché le cœur de partir et de les laisser là, quoi. C'était très très difficile. Surtout qu'en plus, j'ai oublié de dire que quand ils sont donc rentrés de France, ils ont donc été accueillis par la police kosovare qui les a gardés à vue pendant quelques heures. Qui les a entièrement déshabillés, examinés de la tête aux pieds, donc même les enfants, je vous passe les détails, pour voir qu'ils n'avaient pas de maladie, pas de poux, qu'ils transportaient rien, une France, donc des choses vraiment très humiliantes, quoi. Pour des parents comme pour des enfants de 12, 13 et 14 ans.
Okay. Il est où le village, hein? Il est à côté de quelle grande ville? C'est dans la montagne?
Non, c'est en plaine, c'est à une trentaine de kilomètres de Pristina. D'accord. Entre la frontière macédonienne et Pristina.
Donc une fois rentré en France, comment se passe aujourd'hui le soutien pour cette famille? Ça continue?
Ben alors, en fait, il y a plusieurs soutiens. Enfin, on est un peu là dans le flou parce qu'en fait, déjà, il y aurait un soutien médical pour madame, hein, psychologique, vu les violences qu'elle a subies. Pour Léo Trim aussi, qui risque de perdre sa jambe parce qu'il a une grave maladie à la jambe. Je ne me rappelle jamais le nom. Et donc, il faut absolument qu'il soit opéré, sinon il risque de perdre sa jambe. Donc, on a ces deux pistes-là. Et on a aussi essayé de voir si éventuellement on pourrait les faire rentrer donc, en toute légalité pour ne pas les droits de l'homme. Mais en fait, on voit actuellement que la situation continue à renvoyer des Kosovars chez eux. Donc, on envoie même des Tchétchènes. Donc à Poutine, donc bon, là-dessus on a aucun doute sur ce qu'est devenu hélas notre pays. On n'est plus un pays des droits de l'homme, mais un pays qui renvoie à la mort, à une mort certaine, des personnes menacées dans leur pays.
Quoi. Et là, le comité de soutien de la famille Demiri à Marseille, donc vous cherchez des pistes possibles pour les faire revenir en France.
Voilà, tout à fait, par les voies légales.
Par les voies légales, et donc les voies légales, ça se situe à quel endroit? C'est l'OFPRA, c'est quoi?
Alors c'est l'OFPRA, c'est la légalité médicale, c'est-à-dire obtenir un visa médical pour Liu Trim et sa maman, qui puisse se soigner en France. Mais là, ça implique qu'il n'y aurait que deux personnes qui reviendraient, donc le petit Liu Trim qui est malade et la maman, et que les autres resteraient au Kosovo, ce qui est pour nous inacceptable, quoi. Donc le but c'est d'essayer de faire revenir la famille par des voies légales. Après le reste, la famille Rabat est revenue. Nous pour l'instant on n'a pas de piste de ce côté-là. Quoi.
Donc vous êtes allé voir la famille Demiri au mois d'avril, on est là au mois de juin. Quelles sont les nouvelles que vous avez depuis que vous êtes parti?
Ben, hélas, pas trop de nouvelles, puisque là, les Ridonards, ils vont plus au Mel depuis un moment. Emmanuel, qui paye leur loyer, les a eus il y a quelques temps, mais la situation, elle est toujours aussi difficile. Hein. Elle est toujours aussi difficile. Et pour nous, c'est très très dur de nous dire que finalement, on ne va pas pouvoir porter la famille en leur envoyant de l'argent tout le temps, puisque chacun d'entre nous a aussi ses difficultés. Et c'est complètement angoissant parce que plus d'argent, plus de maison, plus rien. Quoi. Je me dis que j'essaie d'avoir des nouvelles par internet, puisqu'en plus, appeler, c'est très très cher, quoi. C'est du domaine international. Moi, j'ai pas beaucoup de moyens. Je sais que des copines du comité de soutien appellent. Mais c'est pareil, quoi. C'est que dire à chaque fois, quoi, à part apporter un soutien moral. Et des fois, on n'a pas toujours tous le moral. Donc, si c'est pour les démoraliser encore plus, quoi, c'est dur. Et là, ça fait à peu près 3 semaines que Liridona n'a pas répondu au mail que je lui envoie. Donc, on va réessayer.
À ta connaissance, les militants du réseau Éducation sans frontières, il y a beaucoup de gens comme ça qui restent en contact avec des personnes, les familles qui sont expulsées?
Oui, de plus en plus. De plus en plus, parce qu'en fait, on est obligé. Enfin, certains d'entre nous s'impliquent plus ou moins sur des cas. Donc, moi et d'autres, c'était la famille de Miri, on va dire Corinne et d'autres copines, la famille Massuel-Eva. Sur Lyon, Shirazan, enfin bon, les gens, quand même, quand on a été visiter des familles au camp, on est obligé de rester quand ils ont été expulsés, déjà pour savoir. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est initier un travail sur faire savoir au monde ce que deviennent au moins à la France, ce que deviennent les familles qui ont été expulsées, quoi. Et voir la misère dans laquelle, parce qu'il y a aussi des jeunes majeurs qui sont expulsés, leurs parents vivent ici, toute leur famille est régularisée, eux ils ont eu la malchance par exemple d'arriver à 13 ans, après 13 ans, des fois c'est 13 ans un mois, des fois c'est 14 ans, et de ne pas être régularisés par le gouvernement Sarkozy, et le jour de leurs 18 ans, alors qu'ils ont passé la majeure partie de leur adolescents en France qui ont fait des études, qui sont en fac ou en lycée professionnel ou même des fois dans des filières d'élite, ces jeunes, on les expulse, ils se retrouvent beaucoup des là récemment on a eu une petite, alors la jumelle est restée en France, elle a été régularisée et elle est sur Tanger sans rien, Samira, voilà, sans rien. Il y a énormément de cas comme ça et ces jeunes, ils arrivent, alors ils sont à la rue. Leur famille est désespérée, eux ils sont désespérés. Et de quel droit quelqu'un qui a des parents qui ont travaillé toute leur vie en France pour construire la France, on expulse leurs enfants alors qu'en fait ce sont des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui payent leurs taxes d'habitation et qui du jour au lendemain sont spoliés de tout quoi. Parce que quand on les expulse, ils n'ont plus rien. On les expulse, la France garde leurs biens, exactement comme ils ont fait avec les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est intolérable. Pour nous, c'est intolérable. Donc, il y a une prise de conscience à avoir vraiment à tous les niveaux.
Et donc, les liens vont être de plus en plus maintenus avec les familles et les personnes expulsées. Ouais.
Alors, ce n'est pas forcément des liens financiers, mais au moins des liens affectifs. Et c'est peut-être initier une nouvelle campagne à la rentrée sur ce sujet, en fait. Là, on n'est plus sur la directive de la honte. Puis arrivent les vacances, hélas. Et parce que pour ces gens-là, il n'y a pas de vacances. Et à la rentrée, moi j'espère que vraiment il y aura, on en a déjà parlé plusieurs fois à RSF, une campagne d'information sur le devenir des personnes après leur expulsion.
C'était Elisabeth, militante du réseau Éducation sans frontières à Marseille. Elle nous parlait de son engagement auprès de la famille kosovare de Miri et de son voyage au Kosovo pour leur apporter du matériel de première nécessité, matériel réuni à Marseille par le comité de soutien à la famille de Miri. Plus d'infos et contacts sur resf13@no-logo.org ou sur www.educationsansfrontieres.org.